plume sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la maison d'édition Rebeline qui est à l'honneur aujourd'hui, puisque sont présents avec nous les deux dirigeants de cette vénérable institution et un auteur maison. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Rouillère pour son roman Le secret des bleuettes, Bernard Collin pour Air de Lorraine et John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Vivre comme un roi. Bonjour à vous trois et bienvenue.
Bonjour.
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 Alors, nous allons commencer avec Nathalie Rouillère et son secret des bleuettes. Alors, Nathalie, Le secret des bleuettes est un roman policier. Vous en avez déjà écrit combien ?
Ben, c'est le sixième à CAM, plus... Non, c'est pas...
Non.
Il y a six à CAM, trois, comme ça, ça fait neuf. Oh, une dizaine, dix, douze.
Ah, voilà. Vous avez compté 15.
Oui, c'est possible, parce qu'il y en a, c'est... Oui. Oui,
bon, bah,
ça doit être ça, je ne compte pas.
Heureusement qu'il y a des archives. Alors pourquoi le choix du roman policier? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette forme d'écriture?
La création, tout simplement. Le fait d'avoir les idées, de les imbriquer comme un puzzle, de mettre toutes les pièces là où elles vont, et puis qu'à la fin, ça donne vraiment une intrigue qui se tient. Voilà.
Mmh. Alors, le titre est un peu énigmatique. Que sont les bleuettes? J'avoue que je ne connaissais pas avant de lire votre roman. Alors, pour nos auditeurs, vous voulez bien expliquer ce que sont les bleuettes?
Oui. Donc, c'est une marque de poupée, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de S à la fin de bleuettes, avec qui il y a une majuscule. C'est une marque de poupée qui est sortie dans les années 20 et puis qui a eu une cinquantaine d'années de vie. Alors, à l'époque, c'était très cadeau, hein, puisque c'était vendu avec un quotidien pour. C'était un cadeau avec un petit quotidien pour les jeunes filles qui apprenaient à coudre, à faire des patrons pour leurs poupées. On les préparait à des bonnes jeunes filles, à des futures mères de famille.
Oui.
Voilà.
Et elles étaient, elles avaient la taille d'une petite fille, en fait. Hein,
elles faisaient quand même 27 à 29 cm, oui. Hein, ça dépend des fabrications. Mais oui, c'était déjà un bébé.
Oui. Bon. En revanche, leur tête, c'était pas terrible. Les yeux,
non, à l'époque, ils avaient du mal. Hein. Les premières n'avaient pas du tout les yeux qui bougeaient. Il y a eu des têtes en cire, des têtes en papier carton. Ça a changé au fur et à mesure. C'était les premières poupées, en fait.
Oui. Il y a eu une accalmie et puis ça avait repris. Hein.
Oui. Avec la guerre. Oui. Et puis ça a repris, puis c'est tombé complètement dans les années 50-60, c'était fini.
Oui.
Maintenant, c'est des objets de collection, par contre.
Ah, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui collectionnent ça.
C'est comme ça que je les ai découvertes.
D'accord. Vous en avez croisé une?
Non, j'en ai pas croisé, mais je me suis renseignée auprès de collectionneurs, etc. J'ai regardé pas mal de sites là-dessus. C'est vendu aux enchères, les habits sont recherchés, tout est...
Ah, d'accord. Ah ouais, vous pouvez fouiller dans vos greniers, dans vos malles.
Voilà,
peut-être
si
que vous avez
une
fortune.
Poupée, ne l'achetez peut-être pas comme ça, elle peut quand même valoir un petit quelque chose. Quoi. Ouais.
Alors, votre roman met en scène deux personnages récurrents, Jolène et Stanislas. Ils ont quelques différents un peu, tous les deux.
Oui, moi c'est « je te veux moi non plus », surtout pour Jolène qui ne veut pas s'attacher, en fait, même si elle l'aime bien quand même.
Oui, c'est pas leur première enquête. Hein.
Non, c'est pas leur première enquête, et c'est justement... dans la deuxième, ils se sont connus dans la première, dans la deuxième, ils se sont séparés, et là, au départ, ils sont toujours séparés. Voilà.
Oui, on ne dira pas si ce... remettre ensemble définitivement ou pas. Alors, il y a un autre personnage très savoureux qui vient renforcer l'équipe. Alors, parlez-nous de Laurence.
Ah, Laurence. Alors, Laurence, c'est un petit peu un personnage connu. En fait, il y a une Laurence que je connais qui est très exubérante, mais qui n'a pas l'âge de Laurence dans le livre, qui est plus âgée, mais qui m'a raconté, justement, je lui ai demandé qu'elle se décrive un peu à l'âge-là et... voilà, c'était elle qui était celle qui m'a fait découvrir Attachiante.
Ah oui, Attachiante,
voilà,
oui,
c'est ça.
Oui. Il faut dire qu'elle est québécoise. Hein.
Voilà, alors donc c'est de sa famille, mais ils sont expatriés quand elle avait 15 ans et ils sont au Québec depuis. Et voilà, donc elle arrive avec son accent et puis elle en met plein la vue à sa cousine aussi, en passant.
D'ailleurs, elles étaient un petit peu à couteau tiré aussi.
Ah oui, moi, c'était un petit peu les portraits opposés. Hein.
Oui.
Jolène, elle n'a jamais trop fait attention à tout ce qui est le paraître, alors que sa cousine était quand même beaucoup dans le paraître, elle. Donc, c'était pas le grand amour.
Oui. Alors, vous parlez le québécois de naissance ?
Ah, pas du tout. Alors là, c'est pareil. J'ai fait un dossier complet sur le québécois. Parce qu'en plus, il y a du vieux québécois, puis du nouveau. Il y a des choses qui sont plus idées. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup du vieux français.
Oui, bah oui, bien sûr.
Puisque c'est les expressions qu'ils ont gardées, que nous, on utilise pratiquement plus. Donc, c'était assez savoureux, quoi.
Oui, oui.
Mais bon, il y en a beaucoup plus que ce que je n'ai mis, parce que je voulais pas non plus perdre le lecteur.
Oui,
parce
bien
que
sûr.
Tout le monde n'a pas réussi à lire correctement.
Oui, bon, ça, il y a un petit côté. Ça rappelle un peu le vosgien profond.
Et c'est à un moment donné, c'est l'impression que ça me faisait. Oui, oui, avec les consonances, la façon de prononcer les A, les O et tout
oui,
ça.
C'est oui, ça. Oui. Hein. Alors parlons de l'énigme maintenant.
Oui. Bah oui, bah on va pas tout dévoiler.
Ah ben bah non, bien sûr. Mais
non, alors en fait, c'est le premier roman où vraiment j'ai fait une première partie. J'ai écrit l'intrigue de ce secret.
D'accord.
Donc j'ai fait déjà pas mal de parties que j'ai réintégrées dans l'enquête après, en transformant ou non en fonction d'eux. Mais en fait, j'avais vraiment le secret de famille avant d'attaquer le
oui,
coup-là.
Parce que
c'est trop compliqué sinon. Puis ça m'a permis justement de bien poser
les deux époques, parce que ça, tout ne se passe pas à la même.
Voilà, c'est ça. Une partie donc qui revient de par étapes, je l'ai fait en 5 chapitres, qui revient donc c'est dans les années 60 quand s'est passé donc ce secret entre oui. guillemets, et puis là Jolène elle on la case dans les années 2005 2006 je sais pas, enfin oui. dans les années là quoi plutôt
oui.
pas aujourd'hui non plus hein, c'est oui. plus
et donc l'enquête commence parce qu'on a découvert.
Alors, on n'a pas découvert, il y a eu un double suicide, des retraités qui se sont suicidés. Donc, c'était classé, ça allait être classé en suicide, mais la fille ne veut pas reconnaître que ce sont des suicides. Pour elle, ses parents ne présentaient pas du tout d'envie de mourir, quoi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Mm-hmm.
Donc, chargée de terminer, de boucler l'enquête en affirmant que c'était un suicide, finalement, il s'avère que pour Jolène, ce n'en est pas un. À cause de cette fameuse bleuette qui apparaît et que, justement, la retraitée en question qui était malade était pédiophobe.
Voilà.
Elle était pédiophobe, donc elle ne supportait pas la vue de poupée. J'ai travaillé un petit peu là-dessus aussi. Donc, c'était intéressant d'avoir ce petit détail sur une photo qui va déclencher, en fait, le départ de la nouvelle enquête.
Oui, oui. D'ailleurs, votre photo de couverture fait un peu peur quand on regarde la...
Et encore, j'en avais d'autres, c'était carrément l'horreur, quoi. Parce que j'avais essayé de transformer... Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, avec le titre « Le secret des bleuettes », comme on ne sait pas ce que c'est bleuette, c'est pas redondant.
Oui.
Donc, j'ai dit finalement, si, je vais quand même mettre des poupées. Mais je ne voulais pas mettre une bleuette, justement.
Mm-hmm.
Donc, j'ai trouvé des photos de brocantes, de machins comme ça. Et puis, les poupées, de toute façon, c'est ça le problème, c'est que ça fait penser, d'ailleurs, Stanislas évoque Chucky et compagnie, quoi. Tout de suite, on... Mais l'épouvante ne vient pas des poupées dans l'histoire.
Non, c'est
non,
ça.
Pas du tout.
Oui, oui, oui. Alors, un de vos personnages cite la phrase d'Horace « La résignation allège tous les maux sans remède ». Vous êtes d'accord avec cette assertion ?
Ah bah disons que là, ça lui allait parfaitement.
Hein, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
Oui, mais dans la vraie vie, vous pensez aussi qu'il faut se...
Ah non, pas du tout. Il y a des situations où ça peut fonctionner, mais d'autres où non. Oui. Non, il ne faut pas se résigner.
Voilà.
Moi, ça dépend de ce que c'est, pourquoi, etc. Mais sinon, non. Pas tout le temps. C'est comme toutes les maximes ou tous les proverbes. Ils sont bons dans certains cas, puis ils sont pas trop bons dans d'autres.
Et alors, dans votre roman, vous abordez aussi le thème de la manipulation mentale. Vous écrivez que la manipulation mentale est un art. Cette technique vous fascine ?
Oui, mais on le voit beaucoup. Où il y avait cette série à la télé où le gars, c'est un...
Un mentaliste ? Voilà,
mentaliste, c'était le mot que je cherchais. Où les mentalistes sont quand même... On en parle beaucoup en ce moment... Ça a toujours existé, en fait, puisque c'est la base de la magie, au départ, de manipuler les gens pour leur faire dire ou trouver leur petit secret rapidement, quoi.
Oui, mais en fait, il y a deux choses différentes. Il y a le mentaliste qui essaye de vous faire croire qu'il lit dans vos pensées,
mm-hmm.
et puis il y a ceux qui...
Qui manipulent, qui se servent.
Vraiment,
oui. Mais
servent,
c'est au départ, c'est un petit peu le même fonctionnement. Après, c'est la dérive.
Oui, c'est ça.
C'est plutôt ça.
Oui. Voilà. Donc là, on est en pleine dérive. Hein.
Oui.
Alors, vous écrivez aussi à un moment, comme toujours, l'interdit attire plus qu'il ne repousse. Alors, c'est souvent vrai, mais heureusement que la peur du gendarme existe encore, non ?
Oui. Bien sûr, mais même pour les enfants. Moi, je vois toujours ça du côté des enfants. Il suffit qu'on nous dise de ne pas faire un truc pour qu'on ait envie de le faire.
Oui.
Ça éveille plus la curiosité qu'autre chose, en fait.
Chez les enfants, mais chez les grands, c'est une façon de se... Comment dire, de montrer ses muscles, non? C'est ça un peu?
Oui, enfin, moi, j'ai pas trop de muscles à montrer, mais je peux être teigneuse aussi, donc voilà, s'il faut.
C'est le sel de l'interdit.
C'est le sel de l'interdit.
Oui, d'accord. Bon, bah écoutez.
Alors, comme le disait Léo Pérus, si vous grattez les ors et les vernis, vous finirez toujours par découvrir les ténèbres. C'est ce que vous faites dans vos romans, vous grattez les ors et les vernis? Vous creusez profond?
Alors, j'aime bien creuser profond parce que il y a toujours. Je trouve que même dans les actes les pires, il y a toujours quelque chose qui a déclenché. Enfin, il me semble que ça vient pas comme ça.
Oui, on n'est pas mauvais.
Alors là, bon, après il y a des maladies psychiatriques, donc je ne sais pas si on est ou pas mauvais, mais je pense que ça fait beaucoup partie de l'entourage, de la vie, de l'environnement, de l'éducation, de tout ça. Hein. C'est il y a des essais. Moi, j'ai vu des enfants qui ne sont pas pervers et pourtant qui ont parfois tué un animal ou. Il y a des expériences aussi dans la vie après, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour un petit peu orienter.
Oui.
Et je pense que l'environnement et l'éducation sont pour beaucoup.
Oui. Et en ce moment, on voit que l'éducation ne suit pas toujours.
Ah,
Je crois que c'est un manque de temps, non, peut-être? Ou les gens ne se donnent pas le temps de s'occuper de leurs enfants?
C'est-à-dire que c'est tellement l'ère de l'individu aujourd'hui que les parents font des enfants, mais sans réfléchir qu'il va falloir les éduquer parce qu'il va falloir qu'ils s'occupent d'eux, pas que... Le problème, c'est qu'ils sont trop tournés vers eux-mêmes pour s'occuper aussi de leurs enfants. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Non, faire un gosse simplement pour le poser là, puis débrouille-toi, ce n'est pas possible. Quoi. L'individu a des limites, là.
Alors, pour écrire ce roman, vous avez dû faire des recherches. Donc, les Bleuettes, le Québécois, ça doit prendre un certain temps.
Ah ben, oui. C'est le plus long, en fait.
Oui. Hein.
Là, ce roman-là, j'ai commencé les recherches. Bon, en général, je commence à la période-là. Hein. Là, je suis en train d'attaquer le suivant. Je fais mes recherches à la période-là. J'ai commencé vraiment à l'écrire qu'en janvier-février.
Ah oui, d'accord. Et après, une fois que vous...
Ah ben, une fois que je suis dedans, une fois que je suis partie, surtout que là, comme j'avais bien écrit le secret du départ, j'avais plus qu'à intercaler. Ce qui me restait, ça peaufinait, c'est leur recherche à elles, comme dans quel sens elles allaient attaquer, pourquoi commencer par là ou pas. Quoi. C'est surtout ça qui était...
C'est
trouver le schéma, le plan pour aller au bout, quoi.
Oui, ça doit être difficile de commencer, ce genre de roman. En fait.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a quel moment, il ne faut pas rester trop longtemps, parce que souvent, après, on me dit, c'est long au début. Bah oui, parce qu'il faut que ça démarre. C'est pas toujours facile, mais effectivement.
Il faut camper.
Il ne faut pas non plus que ça aille trop vite, puis qu'à la fin, en deux temps, trois mouvements, ce soit fini. Donc, il faut équilibrer un peu tout ça. Mais si le début est long, mais qu'il apporte bien les réponses pour qu'on puisse continuer, c'est important aussi. Donc, il faut... Oui, c'est toujours le début le plus long. Et puis, la fin.
Oui.
Parce que là encore, à moitié du roman, la fille n'existait pas.
Oui. C'est une fin un peu ouverte quand même.
Voilà, c'est ça. Bah, peut-être une idée pour une suite.
Oui, parce que...
Pour retrouver le même personnage, peut-être. On verra bien. Pour le moment, je pars dans Hakam, on verra bien.
Le mystère est résolu, bien sûr, mais on sent que la fin est ouverte.
Ah oui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein,
donc, c'est ça. Voilà. Donc vous êtes dans un autre roman déjà?
Oui. Ben là, je pars sur le Mont Saint-Odile avec Hakam. Hein, on va voir ce que ça va donner.
Alors Hakam, c'est pas.
Alors Hakam, c'est plus. Je fonce dans le lard. C'est la détective privée qui a son petit caractère et qui se permet un peu beaucoup de choses. Puis il y a toujours ce côté un peu fantastique. Donc c'est ce côté-là surtout que je suis en train de chercher là en ce moment. Donc je suis en train de me taper toute l'histoire du Mont Saint-Odile, un pavé comme ça. Bon, bref, je ne sais pas si ça me servira, mais au moins je lis. Et puis, il y a surtout l'histoire de ce mur païen. En fait, c'est surtout ça qui m'intéresse, qui n'a rien de païen. Hein. Alors, j'ai découvert que justement, ça n'avait rien à voir avec les païens. C'est, le mot païen, à l'origine, voulait dire que c'était étrange, tout simplement. Donc, ou différent, mais... Voilà, donc je suis là-dedans. J'ai déjà mon point de départ, puisqu'on retrouvera les personnages... la petite Musère, donc qui est l'équipière de Vadosky, avec son fiancé, qui sont donc en amoureux au Mont Saint-Odile. Et ça va certainement démarrer par la découverte, parce qu'il y a des tombes. On suppose que ça date du 5e siècle, tous ces coins-là, parce qu'on a retrouvé des tombes de cette époque. Voilà. Donc, on va trouver un cadavre dans une tombe. J'ai le départ, j'ai pas mal de choses, mais il me reste à vraiment trouver le bon truc qui soit fantastique, parce qu'il y a tellement de légendes.
Oui, bien sûr.
Il y a tellement eu de trucs faux qui ont été racontés, que voilà, faut pas que je... Puis il faut pas que je prenne des choses que j'ai déjà utilisées. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'histoire des druides, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur les druides. Mais Akam, elle a déjà commencé son premier roman, c'est sur les druides, donc... Ça m'embêtait de repartir là-dedans, donc je cherche le petit truc. Moi, je vais bien trouver une secte quelconque.
Et vous êtes plus libre avec une détective privée qu'avec des policiers, ou ça vous est égal
parce... Oui, mais parce que Akam, elle peut bouger comme elle veut. Elle,
c'est ça,
elle, elle peut décider d'aller voir les gens à 3h du matin. Il n'y a personne qui va lui taper sur les doigts. Hein.
Oui.
Si, les gens, à la limite, mais... Que les policiers sont censés respecter des horaires, des procédures, etc. Elle, elle a une idée, elle va voir. Elle ne demande pas la permission.
Oui. Alors, comment vous décidez d'un coup que ça va être le couple Jolène-Stanislas?
C'est-à-dire que là, maintenant, comme je me rends compte que Jolène marche bien, mais que les accros d'Akam, ils demandent toujours Akam, du coup, je me sens un petit peu partie dans les deux. Quoique je propose beaucoup aux gens maintenant de lire Jolène, parce qu'on arrive quand même à y trouver son compte, je pense, même si ce n'est pas tout à fait le même... Le même modèle, voilà. Et puis bon, maintenant que je suis à la retraite, peut-être que j'aurai le temps d'en écrire un autre en cours de route, mais je crois pas parce que je fais déjà beaucoup de choses.
Eh bien, merci. Nous allons revenir après une chanson que vous avez choisie, Le facteur de Georges Moustaki.
Merci.
Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Venait chaque jour, les bras chargés de tous mes mots d'amour. C'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. L'adolescent qui t'a porté mes joies et mes tourments. L'hiver a tué le printemps. Tout est fini pour nous de maintenant.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors nous sommes toujours avec Nathalie Rouillère pour son roman Le secret des bleuettes et de Bernard Collin pour Air de Lorraine, publiés tous les deux aux éditions Rebeline. Alors avant de parler du roman de Bernard et puis de la nouvelle de John Bullitt, il faut quand même que je vous dise qu'en aparté, il y en a un qui m'a dit qu'il avait joué au ping-pong avec Georges Moustaki, n'est-ce pas John ?
Mais oui, j'ai joué au ping-pong avec Georges Moustaki, je lui ai mis une grosse raclée parce que j'étais très fort et lui, il adorait le ping-pong mais il était très faible.
Ah, d'accord. Ouais. Et donc, on peut parler de personnalité. Il y a Bernard, lui, qui a joué au foot avec M. Platini.
Alors là, il faut préciser que c'était dans le cadre du lycée et des cours de gymnastique. À l'époque, il n'était pas la vedette qu'il est devenu plus tard.
C'est quand même, le monde est tout petit. Hein. Nous sommes entourés de... On est quoi ? À deux mains du roi, c'est ça quand on...
C'est ça, ah, oui. C'est...
Alors, John va nous régaler maintenant avec la lecture de sa nouvelle « Vivre comme un roi ».
Oui, chers amis auditeurs et auditrices, férus d'histoire de France, je sais que vous vous souvenez tous que le 1er avril 1634, le duc de Lorraine Nicolas-François de Vaudémont, accompagné de sa future épouse Claude-Françoise de Lorraine, enfermé jusqu'alors dans le palais ducal, disparaissent par un froid matin de printemps à la barbe de leurs ennemis d'alors, nous autres, les Français. Mais durant leur fuite, le duc de Lorraine apprend la trahison de son cousin, le vicomte des Trois Maisons, avec la duchesse de Lorraine dont il est devenu l'amant. Rentré dans une rage folle, le duc lance à ses trousses dans Nancy ses espions et ses tueurs à gages restés sur place. Le vicomte des Trois Maisons, apprenant par la rumeur qu'il était recherché, se dit que, vraisemblablement, ce n'était pas pour lui offrir des fleurs. Bretteur fort réputé, il n'était cependant pas inconscient de sa valeur dans un combat disproportionné. Et puis, celui-ci gardait surtout à l'esprit de rejoindre un jour ou l'autre sa belle duchesse de Lorraine. Aussi, il ne lui restait plus qu'à s'enfuir de manière discrète. Oh, après tout, une fuite, tout honteuse qu'elle était, préservait l'avenir de sa folle romance. Son cocher, Gérald Babeuf, natif du petit village de Xeuillé, non loin de Nancy, fut celui qui le tira de ce mauvais pas. Le cachant au fond de sa cave à vin, remplie de toiles d'araignées et de rats, mais aussi de quelques cruches pleines d'un bon vin qui lui firent passer la tente de manière agréable. Il l'extirpa ensuite de sa fâcheuse position dans un chariot, transportant des tonneaux vides en direction de son village natal, recouvert d'une bâche sous laquelle celui-ci se glissa. Aux portes de la ville, ils passèrent sans coup férir en glissant aux gardes une bonne cruche de vin. Et Gérald tendit un petit papier au chef des gardes qui le déchiffra puis le mit dans sa poche en faisant un clin d'œil. Lentement, très lentement, au goût des deux hommes, ils disparurent sur les routes poussiéreuses du Saint-Ouen, tirés par un bœuf énorme.
« Voilà, messire, tout va bien maintenant. Vous pouvez sortir de dessous votre bâche. Nous sommes hors de vue à présent. »
Oh, je suis brisé, mon dos n'est plus que marmelade. Ton vilain chariot m'a brisé les os.
Il est vrai qu'il est moins confortable que votre carrosse, messire, mais en tout cas, il se montre plus discret.
Oh, si fait. Mais dis-moi, cocher, je ne savais pas que tu faisais aussi commerce de vin. La solde que je t'octroie ne te suffit donc pas?
Oh là, messire, si je puis me permettre, ce n'est pas avec les 5 ducats par mois que vous me donnez que je puis vivre confortablement. Hein. Non, tout augmente aujourd'hui, le pain, le sel, la vie est chère, et j'ai 6 enfants à nourrir, oh, et une femme dépensière.
Oh bah si fait, brave cocher. Je t'augmenterai d'un ducat à mon retour pour m'avoir sauvé. Et tu pourras dire partout, avec honneur, que c'est toi qui as sauvé le vicomte des Trois Maisons. Mais dis-moi, où m'emmènes-tu me cacher à présent? Je m'en vais vous cacher chez mon cousin. Géant le hideux, qui fait commerce de la vigne et du vin dont les Français raffolent. Oui, c'est chez lui, Axeuillet, que je vais remplir ses tonneaux vides. Axeuillet? Mais la route sera longue avec ce bœuf qui n'avance pas. Ne peux-tu le pousser un peu plus? Avec mon cheval, j'y serai en une bonne heure, alors que là, nous arrivons presque au soir. Certes, messire, certes, mais vous arriverez vivant, n'est-ce pas le plus important pour vous? Si fait, le temps va être long, si long et monotone, alors que je pourrais être auprès de ma belle et lui conter Fleurette. Messire, pour vous distraire, voulez-vous que je vous contasse l'histoire amusante, quoique étrange, que mon cousin m'a narrée lors de son dernier passage? Certains disent que j'ai des talents de conteur et de troubadour. Oh, pourquoi pas? Si cette histoire se montre intéressante, tu auras droit à une poignée de main, l'ami. Oh, c'est trop d'honneur, messire. Je commence donc. Il y a presque 150 ans, durant l'hiver 1477, Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, décide, sur un coup de tête, d'attaquer le duché de Lorraine pour s'en emparer. Avec son armée, il arrive aux portes de la ville de Nancy, où livre bataille. Ayant divisé en deux ses forces, il compte sur son lieutenant, le marquis de la Vieille Pierre, et ses 500 hommes qui vont se refermer comme une tenaille sur les forces françaises défendant la ville et les prendront à revers. Ceux-ci doivent passer par le petit village de Xeuillet et revenir par une neuve maison pour surgir dans le dos des Français, sortir de la ville et les briser comme fétus de paille. Mais cette seconde armée était grande pitié, messire. Faite d'un ramassis de soudards, de sacs à vin et de pillards, qui avant d'être des soldats réguliers s'en prenaient d'abord à la population. Aussi, ils étaient détestés de tous. De plus, le marquis à leur tête n'était qu'un jeune noble, sans expérience, ni poigne, et il ne tenait pas ses hommes. Lorsqu'ils arrivaient en campement axeuillé, ils s'installèrent de force dans les maisons des villageois, pillant les armoires, les coffres, fracassant le mobilier à la recherche de tout ce qui était à manger et à boire. Le viol de plusieurs femmes, les exécutions des réfractaires se succédèrent dans un climat de terreur. Alors qu'ils n'avaient déjà pas grand-chose à manger, ils leur prirent tout, ne laissèrent rien. Au bout de 3 jours de ce traitement, quelques villageois se retrouvèrent discrètement dans une grange éloignée, mirent au point un plan diabolique. Savez-vous, messire, que si vous laissez votre vin à l'air libre lors des vendanges, celui-ci bouillonne. Il produit un vin qui n'est plus consommable et donne une maladie dedans le ventre. Oh non, je l'ignorais. Ton vin m'a toujours plu, il ne m'a jamais affecté, ce me semble. C'est parce que je sais le préparer, messire, ainsi que le fait mon cousin. C'est une science que de savoir s'occuper du vin. Mais revenons à notre histoire. Vous savez, messire, que Xeuillet possède des vignes depuis bien longtemps. À 260 mètres d'altitude, ses coteaux sont diablement bien orientés vers le soleil. Ils ne subissent pas trop le gel, contrairement à ceux de la plaine un peu plus loin, d'où son excellence. Mais cette fois-ci, il se trouvait qu'un des villageois avait gardé une partie de sa récolte d'automne dans 2 énormes tonneaux sans les recouvrir, ni les refermer par mégarde, et ceux-ci avaient bouillonné. Oh, ils étaient diablement mauvais pour la santé. Ils l'offrirent cependant au bourguignon des cruches de ce vin que ceux-ci apprécièrent, réclamèrent avec force cri au cours de la journée, car eux, ils le trouvèrent bon. Jusqu'au soir et tard dans la nuit, ces sacs à vin se goinfrèrent du breuvage. Quand arrivait la nuit, la totalité des soldats ennemis furent ivres ou se tordant de douleur au sol, inoffensifs comme des petits cochons de lait. C'est alors que le chef des villageois, lointain ancêtre de mon cousin, Géant le Hideux, mit au point la seconde partie de son plan. Armés de grands couteaux, ils égorgèrent un à un dans la nuit tous les soldats affaiblis, y compris le petit marquis. Au matin, le vent, le vin et le sang mêlés ruisselaient sur le sol, formant le vide du jour des mares aux reflets mordorés, mais à l'odeur nauséabonde dans lesquelles baignaient les corps des bourguignons. Des 500 hommes, venus en renfort pour prêter main forte au duc Charles le Téméraire, il ne restait plus rien, rien que des cadavres dont les villageois se débarrassèrent en les enfouissant rapidement dans une carrière de sel voisine qu'ils rebouchèrent bien vite. Qu'en dites-vous, monsieur le vicomte, de mon histoire ?
J'en dis heureusement, les temps ne sont plus ce qu'ils étaient. Nous vivons à présent en harmonie, en calme avec le petit peuple des campagnes lorraines. Quoique, si jamais certains apprenaient que je suis de descendance bourguignonne, qui sait si 150 ans après, ils n'auraient pas encore du ressentiment envers ma personne.
Ne vous inquiétez pas, monsieur le vicomte, je veille justement sur votre personne. Vous pouvez avoir confiance en moi. Vous êtes un bien trop précieux pour moi et pour qu'on vous abîme sans mon consentement.
Bien sûr, fidèle cocher, bien sûr.
Ah, nous voici enfin arrivés, j'aperçois mon cousin à l'entrée de sa ferme. « Bonjour cousin, me voilà de retour avec mes 10 tonneaux de vin vide qui n'attendent qu'à être remplis par tes soins, avec cet excellent vin que tu sais faire. Tiens, voilà monsieur le vicomte des Trois Maisons à qui je rends service. Je dois t'en parler. Viens, viens voir. Installez-vous dans cette pièce à part, messire. Êtes-vous bien ? Là, ah, diantre, c'est le bon air de la campagne hein, dont vous allez pouvoir profiter. » Bon, je ferme la porte à clé pour pas être dérangé et pouvoir discuter avec mon cousin. Je reviens de suite. »
Une heure entière s'écoula avant que le vicomte des Trois Maisons ne s'alarmât du calme et surtout du non-retour de son cocher. Dehors, il entendit soudainement moult bruit et chevaux qui s'ébrouaient, puis un cliquetis de bottes et celui-ci déplaisant d'épées qui s'entrechoquaient. La porte s'ouvrit alors brutalement et une dizaine de spadassins pénétrèrent dans la pièce. Et il reconnut à leur tête le chef des gardes, à qui le cocher avait donné le papier lors de leur fuite.
Oh, « Trahi ! Trahi ! Mais pourquoi, cocher maudit ? M'as-tu trahi ?»
Les derniers mots qu'entendit le vicomte avant d'être transpercé par les lames de ses assaillants furent
« Tout augmente, monsieur le vicomte. 5 ducats ne permettent pas de bien vivre. Et ma femme est dépensière. Je vous l'avais bien dit, messire, mais avec les 250 que je vais recevoir pour votre peau, je vais vivre désormais comme un roi. Oui, oui, comme un roi. Adieu, messire. Adieu. »
Merci John. Alors je rappelle que John a publié il n'y a pas si longtemps Encore un jour de soleil, un recueil de nouvelles chez Rebelline Édition.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Bernard Collin, votre roman Air de Lorraine porte bien son titre puisque vous parlez de l'aire d'autoroute qui se situe dans les Vosges. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter une histoire qui se situe dans un endroit que beaucoup fréquentent, lors d'un voyage notamment, mais où l'on s'attarde très peu en général ?
Alors voilà, donc je me promenais en voiture, comme je le fais souvent, et cette aire d'autoroute, en fait, c'est plutôt plusieurs aires d'autoroute qui m'ont inspiré. Il y a celle de Dommartin-les-Toul, il y a celle de Sandaucourt, mais ça pourrait être aussi l'aire de Montalimar ou ailleurs, mais étant lorrain, j'ai préféré situer l'action en Lorraine. Et quand on s'attarde un petit peu en ces lieux, on se rend compte que ça fourmille de vie. Beaucoup de gens se croisent et donc ça, c'est très inspirant.
Alors vous dressez le portrait de toute une galerie de personnages qui vont se croiser et se recroiser sur cette autoroute, hein, sur cette aire d'autoroute.
Oui, voilà, donc c'est mon premier roman avec une multitude de personnages. D'habitude, je privilégie des romans courts avec 2 ou 3 ou 4 personnages. C'est l'habitude que j'avais prise à cause de l'écriture des nouvelles. Mmh. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire complètement différent.
Alors mine de rien, par petites touches, vous nous montrez que tous vos personnages sont liés étroitement. Ça doit être un peu compliqué d'agencer toutes ces histoires compte tenu du nombre d'intervenants. Il y en a 19, j'ai compté.
Oui, il y a 19 personnes et je me suis arrangé pour qu'ils aient tous un lien. Oui. En fait, ils ont tous un lien, ils sont rattrapés soit par leur passé, soit par le présent, par des événements qui surgissent au moment où ils sont sur l'aire de Lorraine. Et finalement, leurs destins se croisent et s'imbriquent complètement l'un dans l'autre.
Oui, c'est vrai. Hein. Alors, l'histoire se déroule sur un peu plus d'une année et chaque chapitre raconte, mois par mois, de septembre à septembre, ce qui se passe sur cette aire d'autoroute, posée au milieu de nulle part, puisque c'est vrai qu'elle est posée au milieu
voilà, j'ai
part.
Choisi de situer une aire d'autoroute totalement isolé pour faire une sorte de lieu un petit peu coupé du reste du monde pour avoir une unité de lieu.
Oui.
Et l'unité de temps, c'est une année. Donc le roman aurait pu s'appeler Une année sur l'air de Lorraine. Ça démarre en septembre et ça finit sur le mois de septembre de l'année d'après. Et chaque mois apporte des nouveaux personnages et des nouveaux événements.
Oui. Pas seulement des nouveaux, il y a des liens avec certains.
Oui, les personnages, en fait, c'est des personnages qui s'ajoutent.
Oui, c'est ça.
Parce que tous les personnages du début restent, en fait.
Oui, c'est ça.
Et finalement, ils s'ajoutent et finalement, on se rend compte qu'ils ont quand même un lien.
Mmh. Alors, c'est presque aussi un roman policier.
Alors, c'est pas tout à fait un roman policier parce que ça répond pas au code du roman policier. Il y a juste une enquête parallèle,
oui.
Mais l'enquête parallèle, c'est sur une personne qui a disparu, mais il y a longtemps.
Oui.
Donc c'est pas sur une disparition actuelle, c'est sur une disparition qui a eu lieu il y a quelques années, mais finalement qui a quand même rapport avec tous les personnages.
Oui, c'est vrai. Alors, vous donnez la parole à ce que l'on appelle communément des petites gens. Vous aviez envie de donner la parole aux obscurs et aux sans Graal ?
Voilà, j'avais envie de donner la parole à des gens qui, dont on ne parle jamais. Donc, je donne la parole, par exemple, aux routiers. Donc, principalement une belle routière, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui exercent la profession de routier. Elles sont souvent très féminines et très loin de l'idée reçue que l'on peut avoir des camionneuses. Mmh. Et j'aime bien casser les idées reçues.
Oui. Mmh. Alors, c'est un roman léger, amusant, et plein de tendresse, pour la plupart de vos personnages. Hein, parce que si l'on excepte Antoine Fritsch et Eugène Rapace, vous l'avez pas raté, celui-là.
Oui, c'est un huissier de justice. Je l'ai particulièrement soigné dans le roman. Et en fait, je me suis inspiré vraiment de ce qui se passe quand les gens sont aux mains d'un huissier de justice, même quand c'est à tort. Dans le cas de Prisca, elle est aux mains de cet horrible huissier de justice, alors qu'elle n'a commis aucun délit, aucune faute. Et c'est une sorte de machine administrative qui s'emballe. Et en plus, comme lui, il est de mauvaise foi, l'huissier de justice, ça ne fait qu'accroître. Et heureusement, donc, elle va être défendue par de très bons avocats qui vont lui permettre de sortir de cette mauvaise situation. Mais en fait, c'est même beaucoup plus complexe que ça.
Oui, oui, bien sûr. Puis en plus, lui, il ne s'arrête pas là, quoi.
Ah non, lui, c'est quand même... Alors, je l'ai chargé, je l'ai mis... En fait, il a pratiquement tous les défauts.
Oui.
C'est rare qu'on puisse charger une personne à ce point. On ne peut pas lui trouver une once d'humanité. Mais par contre, sa seule circonstance atténuante, et son passé.
Oui.
En fait, quand il était... C'était un enfant harcelé. C'est la seule part d'humanité que je lui ai donnée.
Il faut dire qu'il n'était pas gâté avec son prénom. Déjà, Eugène, ça ne se donnait pas vraiment. Et puis, Rapace... Oui, bien sûr.
S'appeler Rapace et devenir huissier de justice,
c'est
une vraie malédiction.
Alors, vous êtes en général beaucoup plus tendre avec les femmes qu'avec les hommes.
Alors, c'est peut-être une habitude. Donc, c'est vrai que les personnages féminins, même les personnages féminins dont on pourrait penser du mal, finalement, en fait, on apprend les raisons de leur comportement.
Oui,
en fait.
C'est ça.
Oui, je suis très tendre avec les personnages féminins, mais aussi avec certains personnages masculins.
Bien
aussi.
Sûr, j'ai dit presque, toujours.
Presque. Oui.
Alors, vous faites dire à un de vos personnages, Léa notamment, les humains sont complexes, tout le monde se trompe, je dirais même que tout le monde se trompe de vie. Vous pensez vraiment que tout le monde se trompe de vie ?
Beaucoup de personnes, beaucoup de gens se trompent de vie. En fait, les gens sont quelque part un petit peu des jouets du destin. Et c'est les circonstances qui les amènent à vivre et à être ce qu'ils sont.
Mmh.
Et souvent, ils sont plus victimes ou spectateurs de leur vie que réellement acteurs.
Ouais. Pourtant, maintenant, c'est un peu plus facile de changer de vie.
C'est pas si facile que ça. Par exemple, si on se met dans la situation de quelqu'un qui veut changer de travail, alors je vais prendre mon cas personnel, donc c'est vraiment intéressant parce que c'est du vécu. J'ai travaillé toute ma vie dans les statistiques commerciales. Et à un moment donné de ma vie, j'ai voulu changer de métier. Et à chaque fois que j'étais reçu par des recruteurs, ils me disaient « Mais on ne comprend pas, vous ne trouverez jamais quelque chose d'autre que dans votre domaine. » Et ça, c'est quelque chose de très français. On n'accepte pas les revirements à 180 degrés. Donc, on est comme marqué par notre premier travail. Et pour optimiser ses chances de retrouver le travail quand on le perd, il faut vraiment persévérer dans le domaine qu'on connaît le mieux. C'est comme ça.
Pourtant, maintenant, avec les facilités pour créer son entreprise, on peut peut-être...
Oui, uniquement dans le cas-là. Effectivement, dans la création d'entreprise, on peut, là, effectivement, changer de vie et de métier totalement.
Oui, c'est ça. Et vous, Nathalie, vous pensez qu'on se trompe de vie aussi, qu'on peut se tromper souvent de vie?
Oui, on se trompe de vie parce qu'on n'est pas, on suit souvent la famille, la société, les clichés, tout ce qu'on a autour de nous. Et finalement, on peut se tromper, oui, oui. Moi, je voulais soigner les femmes bêtes quand j'étais enfant. Donc mes parents n'ont jamais su si c'était pour les animaux ou pour les fous, les folles. Oui. Mais je sais que je voulais être vétérinaire.
D'accord.
Et bon, je n'y suis pas du tout, je ne regrette pas parce que je ne supporte pas de voir souffrir les animaux, donc c'est bon. Mais voilà quoi, et il fallait aller au plus haut pour mes parents. Pourtant c'était des 68 heures, il fallait aller au bac, il fallait à bac C, il fallait... Et je pense qu'on est quand même énormément... pris dans l'étau de la famille et de la société toute sa vie. Quoi. Oui. Alors, arrive des moments où on s'en sort, où on fait autre chose, où... mais on ne peut pas tourner le dos complètement à tout ça. Il y en a qui le font, je ne dis pas, mais c'est quand même assez rare.
Mm-hmm. John ?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est difficile avec le poids de la société, la pression qu'on a, et les parents, généralement, c'est souvent dans le circuit familial qu'on décide de ce qu'on va faire, mais ça fourmille aussi de gens qui ont fait l'inverse de ce qu'ils devaient faire ou qui ont changé. Là, je sais pas, des banquiers par exemple qui ont arrêté et qui deviennent paysans. Ou ça, on le voit assez souvent dans des émissions à la télé ou autre. Des gens qui racontent leur vie et tout.
C'est quand même assez rare.
C'est assez rare.
On en parle parce que justement c'est assez rare. Oui. Parce qu'il faut réussir aussi.
Ah bah après, oui, des fois c'est.
Je pense qu'il est plus difficile de devenir banquier quand on est paysan.
Oui,
dans ce sens-là, oui.
Je crois aussi, effectivement.
Mais chez moi, par exemple, j'ai une belle petite affiche jaune où c'est marqué « Rien n'est impossible ».
Oui.
Surtout avec la SNCF.
Bon, d'accord. Alors, Bernard est un passionné de véhicules et il s'emploie dans tous ses livres à nous parler d'une voiture, plutôt ancienne d'ailleurs, à que seuls connaissent les spécialistes. Alors, cette fois-ci, c'est une Glace 1304 CL. Alors, pourquoi spécialement cette voiture? Parce que, alors, j'ai regardé, bien sûr, à quoi ça correspondait. Je ne la trouve pas particulièrement agréable à l'œil.
Voilà, c'est une voiture finalement qui pourrait être banale, même si techniquement c'est une voiture avancée. En fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est comme dans tous les romans. Dans le précédent, il y avait une voiture actuelle qui était une Peugeot Emra, qui était ultra rare. Et j'aime bien mettre une voiture rare dans mes romans. Mais on peut remarquer qu'à chaque fois, dans des séries policières ou dans des films, les personnages ont une voiture spéciale. Par exemple, Columbo avec sa fameuse Peugeot 403 cabriolet, qui était une version rare de la 403. Dans la série néo-zélandaise Brokenwood, il y a une vieille Holden de 1966. Mmh. Et dans Nestor Burma, il roulait avec une 504 coupée. On aime bien donner ce petit gimmick d'avoir une voiture étonnante, en fait. Mmh. Quelque part, ça donne un petit peu de sel. Et comme j'adore les voitures, je cherche toujours le plus rare possible, en fait. Mmh. Et la 1304 CL, sa forme est assez mystérieuse. Elle a une ligne arrière qui descend tout doucement. Mmh. C'est une voiture assez étroite et c'est une voiture qui est inidentifiable. Et dans le roman, je voulais que comme c'est une voiture qui est mystérieuse, qui rôde un peu comme le camion de duel, on voit jamais le conducteur ou la conductrice. Et donc cette voiture, elle devait être inidentifiable. Mmh. Donc une marque inconnue, un modèle inconnu.
Mmh. Alors lequel de vos personnages vous avez préféré?
Alors j'ai une tendresse pour tous mes personnages.
Oui, ça se sent, effectivement.
Et comme je voulais être avocat, j'aime beaucoup les deux avocats qui n'ont pas des rôles principaux dans le roman, mais c'est le métier que j'aurais bien aimé faire. Et puis, le premier qui apparaît, j'aime bien Prisca, cette jeune fille qui est trahie, qui est abandonnée, et qui rebondit grâce à une autre femme, en fait. Oui. Finalement, c'est quelqu'un qui démarre très mal l'histoire. Elle est abandonnée, elle est en panne de voiture, elle est au milieu de rien sur 7 heures d'autoroute, mais il y a quelqu'un qui lui tend la main. Et j'aime bien l'idée de solidarité, en fait. Quelque part, autour d'elle, va se tisser un grand mouvement de solidarité. Il y a les avocats, il y a la routière qui la dépanne, il y a la patronne de la boutique qui l'embauche. En fait, une sorte de sororité, enfin, oui. des femmes qui s'aident entre elles, en fait. Mmh. Et j'ai bien aimé l'idée.
Mmh. Alors, le prochain roman, vous avez déjà une idée, quelque chose ?
Alors, pas du tout, parce que j'en ai démarré trois, et à chaque fois, je me dis que je pourrais faire autre chose. Donc, pour l'instant, je ne sais encore pas sur quelle voie je vais aller. Mm-hmm. Je cherche.
D'accord, bon, vous avez souvent des pannes comme ça ?
Ah non, c'est pas des pannes, parce que au contraire, il y a une sorte de fébrilité d'écriture. J'ai entamé trois romans, et je ne sais pas lequel sélectionner, en fait.
Ah d'accord. Il n'y a rien qui vient comme ça tout d'un coup.
Le premier, c'est fantastique. Alors. Comment tu dis ?
C'est une panne de trop.
Parlant de voiture.
C'est-à-dire que tu as trop d'imagination.
Oui, j'ai trop d'imagination, voilà. Ouais. Et donc, dans le prochain, il n'y aura peut-être pas forcément des voitures. Ça m'est arrivé des romans sans voiture.
Oui, roman sans voiture. Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. Mais comme il se passait donc, au XVIIe siècle, forcément.
Ah oui, c'est sûr. Alors, vous dirigez avec Nathalie la maison d'édition Rebline. Vous avez combien d'auteurs dans votre maison ?
Alors, on a beaucoup d'auteurs, mais on ne publie pas les romans de tous les auteurs chaque année, pour des raisons déjà économiques et aussi pour des raisons de temps d'écriture. Mm-hmm. Nous sommes une dizaine d'auteurs et nous en avons généralement 4 à 5 par an en publication.
Et alors là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Vous n'êtes pas submergé de manuscrits ?
Si, nous sommes submergés de manuscrits, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne correspondent pas à notre ligne éditoriale. Il y a des gens aussi exigeants, il y a des gens qui sont persuadés qu'ils peuvent vivre de l'écriture dès le premier roman. Donc, il y a une perception différente de la réalité quand il s'agit de littérature. Il y a très peu de gens qui vivent de la littérature. La plupart des écrivains célèbres ont un métier à côté. Ils sont soit journalistes, soit chroniqueurs dans une radio, soit même correcteurs dans des maisons d'édition. Mm-hmm. Mais vivre uniquement de la littérature, ça se compte sur les doigts d'une seule main.
Bien sûr.
Et beaucoup de gens sont persuadés que dès leur premier roman,
c'est un chef-d'œuvre.
La fortune va leur sourire. Et le succès aussi.
Oui, oui. Alors que ça ne se passe pas vraiment pas comme ça. Même si c'est bien écrit, hein, c'est pas une question.
Oui, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Il faut écrire par passion, il faut écrire pour soi et pour partager son écriture et pas forcément viser le succès commercial. Oui. C'est comme les gens qui chantent, ils sont persuadés qu'ils vont remplir des salles énormes.
Bon, John, là, des projets aussi ?
Eh bien, le projet, c'est finir mon bouquin sur... donc, c'est un roman, cette fois-ci, sur l'Ukraine. Hein, donc, j'y travaille depuis une petite année. Là, je ne suis pas loin de finir, là. Je suis allé au 4-5e, à peu près, de l'histoire. Et bon, ça va être, c'est beaucoup d'émotions aussi pour moi, parce que c'est la première fois que j'écris un roman et que je vais le finir, je pense. Et oui, ça me... Avec les personnages, là, je ne sais pas si ça vous fait la même impression, mais moi, quand il y en a un qui va mourir, ça me fait tout drôle.
Comme un ami ?
Oui, c'est devenu, quelqu'un que je connais bien, puisque c'est moi qui l'ai fabriqué. Puis sûrement, je mets un peu quelque chose de moi aussi dedans. Mm-hmm. Et oui, ça me fait de l'émotion, rien que de faire ça, c'est bizarre, hein, mais... Mm-hmm. Ma femme me dit, mais comment ça se fait que ça fait ça s'il n'existe pas ? Je dis, oui, mais c'est une part de moi, probablement.
Ouais.
Et donc, en tout cas, c'est une grande attente de finir ça, finir mon livre qui va s'appeler « La mission Zelensky ».
D'accord. Alors, comment donc Nathalie, elle échappe à ce genre de choses puisqu'elle a des personnages récurrents.
Hein, oui, donc, en général, les morts sont déjà morts, je ne les ai pas connus spécialement.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc c'est vrai que c'est pratique.
Et vous, Bernard, vous n'êtes pas triste d'avoir quitté Prisca,
Alexis? Ah si, Prisca, je suis très triste de l'avoir quittée. Oui. J'aurais bien aimé la connaître. C'est pareil, elle est sortie de imagination. Vous voyez, je suis troublé encore par Prisca. Et quant aux morts, effectivement, il y a aussi un mort. Mais moi, il était mort depuis longtemps et ce n'était pas un personnage ultra sympathique.
Non, donc,
voilà. Mais
donc, vous allez regretter les femmes.
Je regrette plus les personnages féminins que les personnages masculins dans mon roman.
Oui, oui, c'est ça.
Étrange. Mais dans le prochain, il y aura des femmes de toute façon.
Il y aura des femmes et des voitures.
Et des voitures, c'est ça.
Eh bien alors, merci à Nathalie Rouillère d'être venue nous parler de son roman Le secret des bleuettes. Merci à Bernard Collin d'être venu lui nous parler de son roman Air de Lorraine, tous deux publiés aux éditions Rebeline. Merci à John Bullitt de nous avoir fait rêver avec sa nouvelle Vivre comme un roi, quoique rêver, je ne suis pas certaine. Merci à Jean-Luc qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec Toi, tu me plais de Julien Clerc. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Elle a pris ses enfants et elle les a noyés. C'était seulement des carrés de papier, 120 pages déchirées qui allaient se baigner, juste là où la Seine embrasse Aubervilliers. Du haut du pont de fer, elle les a vus flotter, s'en aller vers la mer, nourrir les naufragés. Un tout petit roman qui disait sans mentir qu'on peut tout inventer, même ses souvenirs. Ça s'appelait Toi, tu me plais. On lui avait dit non, qu'il faudrait travailler, en faire un peu plus long, soignant les effets. D'autres qui n'avaient pas lu lui avaient écrit: ceci ne rentre pas dans nos catégories. D'autres encore plus polis lui avaient proposé de travailler l'histoire à quatre mains croisées, comme on dirait aux femmes, aux Indiens, aux enfants. Tout ça n'est pas sérieux, couchez-vous maintenant. Elle a pris son enfant et elle l'a noyé. C'était son manuscrit qu'elle avait déchiré. Il était moins de 6 heures, le soleil souriait. Le monde et le bonheur quelque part l'attendaient. Ça s'appelait Toi, tu me plais. Tu me plais.